L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur BFM Business et l'atelier numérique. Et je suis ravi de vous retrouver encore une fois, comme chaque samedi entre 16h et 18h, pour 2 heures entières dédiées aux nouvelles technologies, à l'économie numérique. Et c'est un atelier exceptionnel, les amis, puisque nous ne sommes pas dans notre studio parisien, juste à côté du périphérique. Nous sommes dans la ville qui nous fait rêver à tous, si on est fan de nouvelles technologies. Nous sommes en Californie, nous sommes à San Francisco. Alors pourquoi San Francisco? Eh bien tout simplement parce que nous fêtons, avec énormément de plaisir, les 10 ans de l'atelier US, parce que vous le savez, l'atelier c'est une émission de radio, mais c'est aussi des cellules de veille, évidemment à Paris, mais aussi en Asie et à San Francisco, et c'est donc ces jours-ci, les 10 ans de l'atelier US. On va en parler avec une émission exceptionnelle, hein. Évidemment Lila Megrawa est avec nous, bonjour. Lila. Voilà, qui, vous le savez, est produit cette émission et participe activement à l'atelier numérique. Et on vous a réservé, franchement, une émission exceptionnelle avec plusieurs sujets qui sont véritablement au cœur des préoccupations ici, à la fois en Californie, mais aussi dans le monde entier, puisque tout à l'heure, on va parler de Smart Cities, on va parler du futur de l'éducation. On évoquera aussi le futur du transport. Ce sera en deuxième partie avec des invités prestigieux, puisque nous aurons avec nous Serge Pasolunghi, qui est directeur de l'innovation chez Renault dans la Silicon Valley, parce que Renault est implanté ici. Nous aurons aussi Alexandre Hague, qui est le programme manager autopilote chez Tesla. Tesla qui est un constructeur automobile qui est en train de révolutionner le véhicule électrique. Et puis, tout à l'heure, nous parlerons aussi d'objets connectés avec, là encore, un invité prestigieux. Le patron de l'innovation chez Samsung est ici dans la Silicon Valley. Il nous parlera des objets connectés. Comment Samsung envisage les objets connectés? Puis c'est d'autant plus un personnage intéressant puisque c'est aussi l'un des papas de Siri. Vous savez, le système de reconnaissance vocale d'Apple. Donc on aura plein de questions à poser tout à l'heure à Luc Julia qui sera avec nous. Et puis on fera aussi un point sur les 10 ans qui vont arriver et que l'atelier va vivre ici en Californie avec toute l'équipe de l'atelier. Mais je suis très heureux pour débuter d'accueillir Nathalie Doré.
Bonjour Nathalie. Bonjour François.
Merci de nous accueillir ici. C'est vraiment très sympa.
Je suis ravie.
Voilà, on est, dans un lieu incroyable, Anna Lila. On est, dans un lieu, un grand open space, pas loin de la mer en fait ici, hein, au milieu évidemment de plein de startups qui viennent ici pour échanger. C'est aussi Nathalie, peut-être le rendez-vous des startups françaises et des passionnés de nouvelles technologies français qui viennent ici en Californie. J'ai l'impression, non? C'est un peu un hub.
Oui, c'est un hub. Je pense qu'on a cette idée de Dream Big, l'idée américaine, et je pense qu'elle attire encore beaucoup, beaucoup de Français qu'on voit passer ici à l'atelier. Et c'est vrai qu'on a même un accélérateur au sein du bureau, donc on en rencontre tous les jours.
Voilà, 10 ans. Bon, donc bon anniversaire.
Merci.
Voilà. Qu'est-ce que fait l'atelier US ici? À quoi vous servez?
On est venu là, il y a 10 ans, principalement pour être dans l'écosystème. Ici, on parle beaucoup d'écosystème d'innovation. On voulait être proche des startups, proche des universités, proche des VC, proche des grands digital players, comme on va voir certains pendant l'émission. Donc pour nous, c'était important d'être ici, d'être en avance de phase avec eux pour aider ensuite la banque et ses clients à innover.
D'accord, mais ça va sur des sujets qui vont bien au-delà de la banque, en fait.
Oui, tout à fait. On regarde les fintechs, bien sûr, ces sujets de start-up sur les services financiers. Mais pas seulement, parce que on pense que l'innovation vient aussi d'autres industries, que la limite entre les industries va être de plus en plus poreuse et que c'est important de voir tous les sujets pour pouvoir innover correctement dans les prochaines années.
Alors, vous accueillez des start-up ici. Qu'est-ce qu'elles font ici? Vous leur montrez un petit peu comment fonctionne l'écosystème californien, comment ça se passe?
Alors, il y a ça, en effet. On les aide aussi, on fait un peu de mentoring, je dirais. On les aide à bien construire leur projet pour ensuite travailler avec nos clients. Et puis aussi, on les accélère. On a un lab ici d'accélération de start-up pour Bank of the West, qui est la banque de détail aux États-Unis. Donc, on a un programme d'accélération sur 3 mois. L'idée, c'est de lancer un pilote avec la banque et d'être donc time to market, comme on dit ici.
Voilà. Et Nathalie a un carnet d'adresses long comme le bras, en fait. Elle connaît toute la Silicon Valley. Ça, c'est cool. C'est plutôt sympa. Merci Nathalie, on se retrouvera tout à l'heure à la fin de cet atelier.
Avec plaisir.
Juste avant 18h pour faire le point sur les 10 ans qui vont arriver dans divers domaines, la mobilité, etc. Donc on se retrouve tout à l'heure. Mais pour débuter Lila, invité prestigieux pour commencer, on va parler de Facebook qui est à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Et il faut savoir que l'une des têtes dirigeantes de Facebook est français.
Mais oui, Nicolas Franchet, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas Franchet, vous dirigez le département, vous êtes Head of, responsable retail et e-commerce chez Facebook. Alors, retail, e-commerce, on pense, on ne lit pas forcément Facebook et retail e-commerce, mais vous avez lancé ou annoncé le lancement d'un bouton buy il y a quelques temps. On va en parler.
Mais peut-être avant d'entrer dans votre dans ce que vous faites vraiment chez Facebook, nous expliquer un petit peu quel est l'avenir dans ce domaine. Un mot quand même sur l'actualité, parce que il y a eu pas mal de choses hein, concernant Facebook. Déjà, quand on travaille chez Facebook, c'est vraiment cool. Moi, j'avais visité il y a quelques années le siège de Facebook. Ça a l'air génial. Hein. Et en plus de ça, bon, vous êtes français. Il y a quand même pas mal de français, j'ai l'impression, chez Facebook. Et vous vous retrouvez de temps en temps, histoire de voilà d'entretenir cette relation que vous avez en tant que français.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas combien de Français exactement il y a à Facebook ou sur le campus de Menlo Park, mais effectivement, tous les mois, on organise un déjeuner où on se rencontre autour d'une bonne table, ce qui est bien français finalement. Donc, on garde nos valeurs et on discute. Et donc, on est chaque fois quelques dizaines et c'est toujours très sympa.
Alors, l'actualité a été quand même assez chargée, mais elle est tout le temps chargée chez Facebook. Il y a toutes les semaines de nouvelles actualités. Au niveau social, c'est intéressant, même au niveau, on va dire, des RH, avec cette volonté d'accompagner les parents qui travaillent chez Facebook. Vous avez maintenant un congé parental qui est de 4 mois, je crois, c'est ça ?
Oui, alors ce qu'on a annoncé il y a quelques jours, ce que Marc a annoncé, c'est que on étendait, ou Cheryl en fait a fait l'annonce, on étendait la politique de congé parental.
Ouais.
Qu'il soit une paternité ou une maternité, à 4 mois, à l'ensemble de nos employés, où qu'ils soient dans le monde. Ce qui est bien, c'est une politique.
Donc, un nouveau papa ou une nouvelle maman chez Facebook
peut prendre
4 mois voilà. De congé parental.
Payé.
D'accord. Ouais. C'est une première, non, j'ai l'impression.
Bah, moi, je trouve ça super. J'aurais bien aimé avoir mes enfants sont grands. J'aurais bien aimé avoir mes enfants maintenant.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Exactement. Bon. On va y réfléchir.
Autre sujet d'actualité lié à Facebook, c'est l'incroyable générosité de Mark Zuckerberg, qui vient d'annoncer que, à terme, il allait léguer 99% de ses actions de Facebook, pour n'en garder qu'1%. Comment c'est perçu, vous, en tant que, on va dire salarié de chez Facebook, cette annonce.
Ah, écoutez, pour ma part, en tout cas, c'est un immense honneur de travailler dans une entreprise dirigée par un aussi grand visionnaire que Marc. Je trouve ça extraordinaire. Et vous savez, en fait, on est une entreprise vraiment guidée par une mission de créer un monde plus ouvert, plus connecté, et on voit vraiment l'Internet comme un outil essentiel pour créer cette ouverture et cette connectivité. Donc on a énormément de programmes de par le monde qui travaillent là-dessus, que ce soit internet.org, où on fait des partenariats avec des opérateurs pour étendre l'Internet là où il n'est pas accessible encore, pour le rendre accessible.
Avec des technologies révolutionnaires, hein, des ballons, enfin des choses comme ça. Ouais.
Et donc, tout cela, encore une fois, sont des programmes qui vont contribuer à cette mission et qui est vraiment la vision que Marc...
Ouais, donc ce don incroyable ne vous a pas véritablement surpris quand
non,
vous l'avez appris ?
Je pense que c'est quelque chose de tout à fait unique, de tout à fait personnel à lui, mais de tout à fait extraordinaire, effectivement.
Très bien. Bon, alors, le commerce et le retail, malgré tout, il faut gagner un peu d'argent chez Facebook pour après le redonner. Quel est votre rôle en fait chez Facebook ?
Alors chez Facebook, en fait, moi, je gère une équipe qui s'intéresse à tout ce qui est stratégie industrielle, c'est-à-dire l'adaptation de la plateforme aux différentes industries qui nous utilisent comme plateforme marketing. Que ce soit les banques, que ce soit les retailers, que ce soit les studios de cinéma. Je m'occupe moi tout particulièrement de tout ce qui est retail et e-commerce, effectivement, et donc je passe pas mal de temps avec des retailers américains, mais aussi de partout dans le monde. qui viennent nous...
Donc des retailers, c'est des revendeurs, on va dire, hein, c'est ça.
Les distributeurs, hein. Donc parlons, distribution. Alors dans la distribution, une invention française d'ailleurs.
En plus.
La très grande distribution, une invention française, donc nous sommes très fiers. Mais donc on passe beaucoup de temps avec les très grands distributeurs, mais aussi avec les tout petits distributeurs, les petits retailers, si vous voulez. Donc on est une plateforme aujourd'hui avec 2,5 millions de publicitaires sur la plateforme.
Alors que je comprenne bien, en fait, vous allez voir ces distributeurs, donc ça va être des grandes surfaces, enfin des grands magasins, mais vous leur dites quoi, en fait? Pourquoi vous les approchez? Pour qu'ils fassent de la pub chez vous, c'est ça? L'idée, c'est ça, ou ça peut aller plus loin?
Alors, donc, ils utilisent Facebook. Aujourd'hui, quand vous regardez la distribution, la plupart des entreprises de retail et d'e-commerce ont une présence sur Facebook, si vous voulez. Donc ça commence par là, ça commence par l'établissement d'une page, d'une présence, et vous verrez que tous les jours, si vous êtes connecté à leur page, vous recevrez un message. Donc cela fait maintenant plusieurs années que cette démarche
avec la fameuse politique du j'aime, en fait, hein.
C'est vrai, et donc si vous aimez
compétition entre les grands acteurs pour avoir
si
le
vous aimez la page
possible.
De Carrefour, par exemple, Carrefour vous envoie des messages dans votre fil d'actualité vous consultez tous les jours. Et pourquoi est-ce que les retailers ont fait ça? Bon, parce que aujourd'hui, Facebook, c'est une plateforme qui réunit 1,5 milliard de personnes chaque mois. En France, 30 millions de personnes se connectent à Facebook tous les mois.
Un Français sur deux.
Un Français sur deux.
Puisqu'il y a 60 millions d'habitants.
À peu près.
C'est incroyable.
Oui. Donc, ça permet aux distributeurs de se connecter, si vous voulez, à nos utilisateurs. Et ensuite, au-delà de ça, effectivement, certains d'entre eux décident de monter des programmes de marketing et d'utiliser nos outils, dont on va parler un petit peu, mais qui sont en développement depuis maintenant 3-4 ans, où on développe, si vous voulez, des outils pour améliorer, si vous voulez, l'efficience de la communication entre eux, ces distributeurs et leurs clients existants et potentiels.
D'accord. Parce que la page, si j'ai bien compris, la page, tout le monde peut en créer une, c'est gratuit.
C'est gratuit.
Voilà, c'est ça.
Vous pouvez en créer autant que vous voulez.
Voilà. Bon, après, je peux essayer de booster mes likes,
etc. Est-ce que vous avez une page?
Oui, j'ai une page. Mais bien sûr, mais l'atelier a une page. Évidemment, on a des pages. Et bien sûr. Et c'est formidable, d'ailleurs, de pouvoir communiquer avec tous les auditeurs. Franchement, dans le domaine de la radio, Facebook a apporté une relation incroyable. Avant, les auditeurs nous envoyaient des mails, donc c'était quand même assez impressionnant. Ils étaient parfois intimidés, etc. Ils ne savaient pas qui allait lire leurs messages. Maintenant, avec Facebook, c'est incroyable. Donc ça, c'est génial. Et donc l'idée, c'est d'aller plus loin, et pour des grands groupes, de donner de l'argent pour optimiser leur communication chez vous, c'est ça?
Oui, alors la raison, encore une fois, pour laquelle ils font ça, c'est que au-delà du nombre de gens qui sont connectés à Facebook, ces gens se connectent d'abord via le mobile, et le mobile est devenu quelque chose d'essentiel dans la vie des gens. 90% du 1,5 milliard de personnes qui se connectent à Facebook chaque mois se connectent essentiellement via mobile. En France, 83% de nos utilisateurs se connectent via mobile.
Le PC est has-been, quoi.
Le PC n'est pas en train de disparaître, il joue un rôle, mais si vous voulez, le mobile donne la possibilité aux gens de se consulter, de faire des choses, si vous voulez, que ce soit, encore une fois, de la banque, du retail, de l'entertainment, de façon très fréquente. Ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'ils se connectent sur Facebook 14 fois par jour, en moyenne. Donc, ce sont des petites sessions de quelques minutes, si vous voulez. Du snacking.
On se connecte en moyenne 14 fois par jour sur Facebook.
Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde quoi? Le fil d'actualité?
Voilà, alors Facebook, c'est votre journal personnalisé.
Oui, en fait. Voilà.
Donc, on a chacun un fil d'actualité différent. Vous voyez des images de vos amis,
de plus en plus de vidéos.
De plus en plus de vidéos.
En tout cas, exactement. En France, c'est le cas. On regarde beaucoup de vidéos.
Et donc, les publicitaires peuvent aussi vous présenter quelque chose qui a la possibilité de vous intéresser. Et donc, c'est ça qui sur lequel on travaille, c'est-à-dire que les gens ne sont pas venus chez Facebook en cherchant quelque chose à acheter. Ils sont venus pour consulter leur fil d'actualité. Et là, on est dans une approche de découverte de quelque chose qui a le potentiel de m'intéresser. Et donc ça, c'est vraiment la problématique sur laquelle on travaille beaucoup.
Lila.
Est-ce que l'étape d'après serait le bouton Le bouton buy, il me semble que vous l'aviez plus ou moins annoncé, vous aviez annoncé le lancement de ce bouton. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, on va revenir au bouton buy. Donc, d'abord, déjà, on a effectivement...
bouton acheté.
Oui, c'est bouton acheté. On a annoncé, non pas le lancement, mais vraiment une série de tests autour de ce concept d'un bouton d'achat. Mmh. Alors, encore une fois, laissez-moi vous expliquer là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a déjà des boutons disponibles sur les encarts publicitaires dans Facebook. Vous en voyez peut-être. Et le bouton s'appelle Shop. Donc, vous pouvez cliquer sur un bouton qui dit Shop. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ça vous envoie soit sur le site mobile de l'annonceur, dans ce cas du distributeur, vous pouvez acheter un produit chez eux, soit dans leur applicatif mobile. S'ils ont un applicatif mobile, ça reconnaît ça et ça vous emmène dans la page. Donc aujourd'hui, vraiment, la construction, ça a été que la découverte du produit se fait côté Facebook, donc je parlais de cette notion de découverte, et que l'achat du produit se fait, non pas sur Facebook, mais sur le site du partenaire. Ça, c'est quelque chose qui est encore en fort développement. Si vous y réfléchissez, c'est la suite logique de beaucoup de systèmes de marketing digitaux qui sont passés auparavant. Et effectivement, un des tests qu'on fait, c'est est-ce que ce serait possible que le processus d'achat complet, si vous voulez, de buy, de transaction, se fasse sur Facebook. Aujourd'hui, les tests sont en cours. On n'a pas grand-chose, si vous voulez, à rapporter. Donc, j'ai pas un plan de déploiement particulier. Il y a plusieurs, si vous voulez, mises en place, mises en œuvre. Par exemple, on a un accord avec Shopify aux États-Unis sur les pages.
Il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres. Par exemple, comment se situe la France par rapport aux autres pays ou par rapport même aux États-Unis?
Quand on lance vraiment une fonctionnalité, on la lance partout en même temps. Donc, par exemple, le bouton Shop, il est en France, les statistiques d'utilisation ne sont pas différentes. On a parlé, 50% de la population est sur Facebook chaque mois et voit tout à fait et interagit avec ses enquêtes.
J'imagine que vous faites des tests de certains services plutôt dans des pays spécifiques, non?
Oui, alors par exemple, les tests sur le bouton buy, ils sont plutôt sur les États-Unis.
D'accord.
Mais on a beaucoup de tests, par exemple, dans les pays émergents, parce que là, le principe, c'est de l'adaptation des mécanismes, par exemple, à la couverture Internet. Vous avez parlé des vidéos. En France, vous l'avez vu, la vidéo démarre automatiquement.
Ouais, et donc, très vite.
C'est très vite.
Ouais, ouais,
ouais, et elle est en fait préloadée derrière. Et ça, c'est possible parce que la connectivité en France est très forte.
On a du bon débit.
3G, bientôt 4G, etc.
Voilà. Enfin, la 4G déjà.
4G déjà
en France? Ah ben oui, attendez Nicolas, mais oui, on est en 4G plus même en France maintenant.
Pardon.
Non, je vous en prie.
Mais en Inde, pas encore.
Ouais.
D'accord. Donc en Inde, vous allez avoir un processus qui est un petit peu plus lent. Et d'ailleurs, on vient de lancer un processus, un applicatif là, qui découpe d'ailleurs la vidéo plutôt en photo, qui permet de s'adapter, si vous voulez, à la connectivité locale.
On revient dans un instant. Nathalie Doré, toujours avec nous. Elle meurt d'envie de vous poser une question. Ça tombe bien parce que nous aussi, on en a encore plein d'autres.
Hein. Super.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business depuis San Francisco. Émission exceptionnelle à l'occasion des 10 ans d'atelier US. À tout de suite, on revient dans une minute.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business depuis San Francisco avec un atelier exceptionnel à l'occasion des 10 ans de l'atelier US. Lila Megraoua est à mes côtés, Nathalie Doré qui est la directrice de l'atelier US bien évidemment, et puis notre invité Nicolas Franchet qui est le patron du retail et du e-commerce mondial chez Facebook. Il nous a fait la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci encore Nicolas. Nathalie, petite question pour Nicolas.
Oui, alors on l'a vu, hein, les marques utilisent Facebook pour communiquer avec leurs clients, pour les attirer parfois avec ce fameux bouton Shop. On a entendu aussi l'annonce comme quoi les marques pourraient bientôt être sur Messenger, votre outil de messagerie. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors la messagerie, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. On y croit tellement d'ailleurs qu'on n'a pas un service de messagerie, on a deux services de messagerie. On a monté notre propre service de messagerie qui s'appelle Messenger, qui est géré par David Marcus, un autre français.
Un autre français d'ailleurs.
Ouais. Qui aujourd'hui a 700 millions d'utilisateurs de par le monde. Et on a aussi racheté l'année dernière une entreprise qui s'appelle WhatsApp, qui a 900 millions d'utilisateurs.
Là, vous avez sorti le gros chèque. quand même.
Et oui, ça, c'est 900 millions d'utilisateurs et qui est une des entreprises les plus performantes du secteur. Donc beaucoup d'investissements, beaucoup d'intérêt sur la messagerie. Messenger a annoncé effectivement une série pareille de tests avec des marques sur des choses qui s'apparentent vraiment à du CRM en fait. C'est-à-dire, on a parlé auparavant, et c'est la partie Facebook, c'est un peu découverte de produits en amont, si vous voulez, de la transaction. Cette transaction, pour le moment, se passe sur les sites des clients. Et par contre, une fois que la transaction s'est passée, il y a la relation client ne s'arrête pas. La messagerie pourrait être un outil extraordinaire pour continuer la conversation, notamment autour de choses simples, par exemple. On a une intégration aujourd'hui avec une entreprise qui s'appelle Everlane. Donc Everlane, c'est une start-up qui fait des t-shirts, de l'habillement. Et quand vous vous connectez, quand vous achetez sur Everlane, vous avez maintenant la possibilité de connecter votre compte Messenger, votre compte Facebook avec Everlane. Et Everlane va vous donner des informations sur où en est votre paquet.
D'accord.
Il est parti, il est en train d'arriver.
Et donc cette information va arriver dans mon Messenger. Voilà, elle n'arrivera plus dans ma boîte email.
Non. Et ensuite, vous pouvez imaginer, vous avez un canal de communication avec l'entreprise, entre l'entreprise. Ce qu'elle faisait auparavant avec de l'email ou par exemple du chat.
D'accord.
Le problème du chat, par exemple, c'est que vous vous connectez, le chat casse, c'est pas super en mobile. Là, c'est sur du mobile. C'est en temps réel. Vous pouvez poser une question, vous avez une réponse. Et donc, on est en train de rentrer dans une nouvelle génération de CRM, si vous voulez. Vous voulez avoir une relation très personnalisée entre l'entreprise et le client ou la cliente.
Comme si je discutais avec un de mes amis Facebook, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire que l'entreprise devient mon ami Facebook et je peux discuter avec elle.
Oui, alors, bon, les paramètres de ça sont vraiment à établir, c'est-à-dire que vous voulez pas que l'entreprise, comme un ami dérangeant, vous appelle au milieu de la nuit à moitié bourré. Donc voilà, c'est pas le principe.
Mais pour vendre une promotion.
Mais l'idée, c'est ça, c'est d'établir cette.
Mais ce qui est génial, c'est que vous avez déjà, enfin, on le voit au quotidien, on a Facebook Connect qui nous permet de nous connecter à plein de sites de e-commerce, etc. Donc vous êtes en train de tisser votre toile, c'est-à-dire que demain vous appuyez sur un bouton et toutes ces sociétés avec lesquels je me suis logué finalement avec mon compte Facebook, pourront m'envoyer ces messages, non ? C'est ça ?
Non.
Alors, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons un contrat de respect des données privées très très fort chez Facebook, entre Facebook et sa communauté.
Et oui, donc j'ai pas signé pour ça quand j'ai cliqué sur Facebook Connect.
Dans le cas d'Everlane, vous devez faire un opt-in.
D'accord.
Pour cette fonctionnalité particulière qui n'a rien à voir avec les autres opt-in que vous avez pu faire auparavant.
Très bien, Lila.
Est-ce que, avec tous ces partenariats passés avec différents retailers, vous auriez vocation à dispenser des services de conciergerie à terme ?
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, sur le Messenger, Facebook, j'ai besoin soit d'une adresse de commerce ou d'acheter telle robe rouge, d'être mis en contact grâce à Messenger, grâce également aux données et à tous vos partenariats avec différents détaillants. Est-ce que ça, ce serait possible, une forme de conciergerie, de service de conciergerie?
Ça, non seulement ce serait possible, mais ça existe déjà en fait.
D'accord.
Voilà. Donc on a lancé récemment, l'équipe de David a lancé récemment un mécanisme qu'on appelle M pour l'instant, et qui est assez sympa d'ailleurs, mais qui est en bêta. Et qui vous permet de poser des questions et d'avoir une réponse semi-intelligence artificielle en fait sur effectivement où est-ce que je peux acheter des fleurs pas chères, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, etc. Donc c'est quelque chose effectivement auquel on croit beaucoup.
Très bien. On se rend compte aussi que Facebook est en train de devenir un Internet dans l'Internet, non ? Enfin, qu'aujourd'hui, il y a tellement de services dans Facebook que finalement, on pourrait presque se passer de l'Internet pour acheter, pour communiquer. Il y a plein d'autres services qui ne me viennent pas quand même à l'esprit, mais regardez Netflix, il y a aujourd'hui, enfin, il y a tout dans Facebook. C'est votre volonté, finalement, qu'on retrouve tout ce qui est aujourd'hui dans l'Internet dans Facebook ?
Alors, nous, très, très humblement, non. Facebook n'est pas l'Internet. On utilise l'Internet pour offrir nos services. On est très heureux qu'il y ait beaucoup d'engagement autour de ces services. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, 1 minute sur 5 passée sur Internet est passée sur Facebook ou Instagram. Donc sur un de nos services.
Et parce que rappelons qu'Instagram vous appartient aussi. Hein.
Tout à fait. Donc on est très heureux de voir cet engouement, si vous voulez. On travaille très dur pour créer des outils qui sont engageants et nouveaux, si vous voulez. Mais encore une fois, nous sommes très distincts de l'écosystème sur lequel nous reposons, qui s'appelle Internet.
Très bien, merci beaucoup Nicolas Franchet. On a passé une demi-heure passionnante avec vous. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir accepté l'invitation de l'atelier numérique. Rappelons que vous êtes donc le patron du retail et du e-commerce mondial chez Facebook. Vous êtes venu donc en voisin, puisque on est à San Francisco, pas très loin de vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. On va parler avec Lila et nos invités du futur de la ville et du futur de l'éducation aussi. Voilà, et d'autres sujets passionnants sont à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, on va parler de Smart Cities, mais aussi du futur de l'éducation, avec des initiatives très intéressantes ici depuis San Francisco. On va évoquer aussi la voiture autonome, la voiture de demain, avec des invités prestigieux tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, Lila, je vous laisse présenter nos invités. On va parler, pour commencer, de ville intelligente.
Tout à fait, et on a le plaisir d'avoir une spécialiste en studio, Valérie Issarny, bonjour.
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 Alors Valérie Issarny, vous êtes chercheuse à l'INRIA et vous êtes réputée notamment sur les questions ayant trait à la ville intelligente. Vous êtes en résidence depuis 2013 à Berkeley. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites à Berkeley ?
Donc je suis à Berkeley pour deux raisons. Une première raison, c'est pour animer le programme INRIA de Silicon Valley, qui est pour promouvoir en fait les collaborations avec les chercheurs de Californie entre les chercheurs de Californie et les chercheurs de l'INRIA. Donc ça couvre tous les sujets du numérique qui sont les sujets de l'INRIA. Et en tant que chercheuse, je m'intéresse plus spécifiquement au développement de nouvelles technologies dans le domaine de la ville connectée. Et donc, vous avez entendu que j'ai parlé de ville connectée et pas de ville intelligente, parce que le terme intelligente pose quelquefois des problèmes.
Alors, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'ai un collègue qui met en avant pourquoi dire que la ville est intelligente maintenant et elle ne l'était pas avant. On sait très bien que les villes ont toujours été intelligentes et c'est le citoyen qui apporte quand même l'intelligence, donc il faut être raisonnable. Alors que la ville connectée met en avant l'apport du numérique, qui est aussi un apport certain. Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et notre travail, c'est effectivement que le numérique soit un apport pour le citoyen et pour le développement de la ville.
D'accord. Alors, vous êtes, comme on le disait, en résidence à Berkeley. Est-ce que la Silicon Valley et San Francisco sont, on va dire, des terrains privilégiés pour observer la ville connectée, j'allais dire intelligente.
Alors, c'est un environnement, on va dire que la Silicon Valley en particulier, San Francisco en particulier, et après la Californie en général, sont des terrains très intéressants pour tout ce qui concerne le numérique. Mm-hmm. On ne va pas se le cacher.
Bien sûr. On ne voit pas pourquoi.
On ne voit pas du tout pourquoi. On ne va pas donner du tout d'exemple.
C'est ça.
Et en particulier, donc, dans le cadre de la ville connectée, on voit bien que ces nouvelles technologies qui sont nées ici sont des contributions intéressantes. Et en plus, on connaît la valeur des universités de la Californie, en particulier de Berkeley et de Stanford. Donc c'est très enrichissant, ça ne peut être que bon de collaborer, d'avoir des collaborations entre la France et ces universités prestigieuses, sachant que je vais insister que la France a aussi des super solutions à apporter.
Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples marquants de la ville connectée, peut-être déjà développée ici ou en Californie ou à San Francisco? Quelque chose qui nous dit « Ah, d'accord, c'est pas mal ».
Alors, sur la ville connectée, donc je suis un peu embêtée parce que c'est pas mes sujets, mais c'est le sujet des personnes qui vont intervenir après, d'après ce que j'ai compris, donc sur le transport intelligent. Ouais. Moi, j'ai été fascinée quand je suis arrivée en 2013 du développement de tout ce qui est sur le système de transport, sur les systèmes intelligents de transport ici, déjà.
D'accord.
Comparé au développement qu'on a en France, donc tout ce qui est autour du véhicule connecté, donc en particulier lié aux véhicules D'accord. électriques, enfin les véhicules connectés, enfin tout ce qui est transport intelligent, je le mets en avant parce que c'est peut-être ce qui ressemble le plus à ce qu'on voit à l'heure actuelle en termes d'implémentation de la ville connectée.
Cela dit, oui, voilà. Quand on parle d'auto-connecté, on parle de ville connectée aussi. Forcément, les deux sont intimement liés.
Voilà.
C'est clair.
C'est pour ça que c'est cet exemple.
Est-ce qu'il n'y a pas également certaines initiatives ayant trait à la pollution sonore? On a pu le voir avec François depuis deux jours. On est juste au bord du passage des cable cars.
Ah ouais, et les cable cars, ça fait un bruit incroyable, hein. C'est dingue.
Quand
hein.
d'enfer.
Les trams parisiens sont beaucoup plus cool, quand même. Hein. Ça, c'est vrai. Bon, ils sont plus récents aussi, hein. C'est pour ça. Ça fait partie un petit peu de on va dire du folklore ici à San Francisco.
Voilà, je crois qu'ils tiennent beaucoup aux cable cars.
Oui, c'est vrai.
Malgré sa pollution.
Pourquoi ça pollue, ça?
Le sonore, de point de vue...
Ah, la pollution sonore, d'accord.
Pardon,
oui,
puisqu'on
bien sûr.
Parlait de la pollution sonore.
Oui, c'est clair.
Et donc, pour parler de la pollution sonore, oui, je suis ravie d'en parler, parce que c'est effectivement un sujet qu'on développe, donc nous, chercheurs INRIA, en collaboration avec Berkeley, qui est de développer des systèmes de conscience de la pollution, et en particulier sonore, hein. Parce que effectivement, et c'est pourquoi on s'est intéressé à la pollution sonore au départ, c'est que quand je suis arrivée, toujours il y a deux ans, ça a été un autre choc pour moi, donc là plutôt négatif, qui est le niveau de bruit ambiant aux États-Unis et dans les villes américaines en particulier, comparé à nos villes françaises et même Paris. Paris qui est bruyant à côté, c'est pas beaucoup.
C'est-à-dire que New York sans les sirènes de policiers et les pompiers, c'est pas New York. Et heureusement, on n'a pas ça vraiment, nous, en France.
Voilà.
Hein.
Donc, il y a tous ces aspects-là. Et il y a aussi les aspects... donc, après, parce que ça fait partie de notre sujet de recherche, de mieux comprendre la pollution sonore, de cartographier, en fait, la pollution sonore, c'est que les réglementations aussi américaines sont moindres. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on a un niveau de pollution sonore plus important. Mais je veux rebondir aussi que le problème de la pollution sonore, il y a une forte conscience au niveau de Paris. Et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Paris sur ces aspects-là, parce qu'ils sont intéressés par cartographier et comprendre la pollution dans la ville, en particulier sonore.
Donc Paris est plutôt en avance dans ce domaine-là?
Oui, plutôt proactif, tout
D'accord,
à fait.
Très bien.
Mais on travaille, nous, dans le cadre de nos projets sur la ville connectée. On a des échanges privilégiés avec la ville de Paris et donc la mission Ville Intelligente. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette démarche. Paris a une démarche de ville ouverte, comme on le sait, avec aussi les données ouvertes. Donc c'est le cas aussi ici à San Francisco. Hein. Faut pas renier. Mais cette démarche de ville ouverte de Paris, d'implication du citoyen, est quelque chose de fort et qui, pour la recherche, est très intéressant parce que ça nous permet d'expérimenter des projets innovants.
Alors vous le dites, vous le répétez, dans une ville connectée, intelligente, on a un besoin de mettre le citoyen au cœur de cette démarche. Comment on le pousse à s'investir, ce citoyen? Comment on le pousse, comment on l'engage quelque part?
On le motive.
Comment on le motive, oui.
Alors, des fois, je dis que c'est la question à 1 milliard de dollars, comme on le sait aussi, si on prend en compte certains succès.
Ça va nous coûter cher. Surtout si c'est 1 milliard
non,
par habitant.
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que celui qui a la bonne réponse, en général, il a un certain jackpot. Donc, donc engager le citoyen, c'est aussi répondre à son besoin. Donc, nous, dans le cadre de l'étude de la pollution, c'est vrai que notre parti pris, ça a été que le citoyen puisse prendre conscience de son exposition à la pollution, qui est importante du point de vue de la santé. Donc on voit le boom des quantified self, je sais pas le traduire, des applications quantified self, hein, donc
d'automesure,
avec, voilà, d'automesure. Et on a pris le parti que la pollution, c'est la même chose, connaître son exposition à la pollution et de savoir et de fournir aussi des données cliniques sur l'impact de l'exposition à la pollution pouvait être intéressant. Donc on ne sait pas si on va attirer tous les citoyens, mais on pense que ça permet d'impliquer certains citoyens, en tout cas, qui sont concernés.
Il y a différents modèles aujourd'hui de smart cities. On a par exemple la version de la ville intelligente selon Cisco, on a la version selon IBM. Est-ce que vous pensez que demain on pourrait voir des villes Cisco un peu comme nos téléphones qui fonctionnent à partir de systèmes d'exploitation iOS, Android? Et si oui, est-ce que ce sera pas un frein demain à l'interconnexion de ces villes, à l'interopérabilité?
Oui. Comment on va faire une ville iOS pour discuter avec une ville Android?
Tout à fait.
C'est un peu un cauchemar, ça, non?
Ça peut être un cauchemar. J'espère qu'on n'ira pas. Je pense que ça peut être en arrière-pensée de certains d'arriver à avoir cette mainmise, si je puis dire, sur la ville. Je pense que ça n'arrivera pas parce que la ville est, comme on dit, connecté, et dans le domaine de la recherche en particulier, l'interopérabilité dans le domaine des systèmes distribués qui sont de plus en plus présents, l'interopérabilité trouve différentes solutions, dont les standards, par exemple. Le réseau est un très bon exemple de où on trouve des standards qui permettent à différents réseaux d'interopérer. Et donc, c'est pour ça que je ne crains pas ce cas de figure, même si on peut y penser.
Merci beaucoup, Valérie Issarny, donc chercheuse donc à Berkeley.
Et à l'INRIA. Résidence à Berkeley.
Merci. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la ville intelligente.
Mais oui, et puis on va
On enchaîne avec, oui, avec le futur de l'éducation maintenant.
Tout à fait.
Et les deux sont peut-être liés d'ailleurs, hein,
un petit peu, sans doute. Sont même totalement liés. L'éducation fait partie d'un des gros départements, gros chantier de la Smart City. Alors pour en parler, on a en studio Sylvain Calache. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Alors Sylvain Calache, vous êtes co-fondateur avec Julien Barbier de la Holberton School. Alors, cette école, c'est un peu un mix, vous expliquerez les termes, entre le peer learning, à savoir que vous mettez la communauté en avant et avant tout, et cette notion de méthodologie des projets, à savoir que la formation passe par le développement de projets et non plus forcément de validation de discipline. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que vous pourriez expliquer un peu le concept
Sylvain,
de la
Holberton School?
On a un peu de marketing disponible. Lila, tu peux venir. Oui, en fait, c'est par rapport à une. C'est vrai que l'éducation telle qu'on la connaît partout dans le monde, c'est une approche théorique. Donc, ça veut dire qu'il y a un professeur qui va donner un cours sur quelque chose où les étudiants vont devoir appliquer cette théorie pour réaliser quelque chose de pratique. Nous, on prend une approche opposée où, en fait, on va demander aux étudiants de réaliser ce projet ou cet exercice. Et en réalisant cette tâche, ils vont acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour atteindre leur but. Et aujourd'hui, on a accès à une quantité d'informations extraordinaires via l'Internet qui vont permettre aux étudiants en fait d'arriver à trouver les informations dont ils ont besoin, et aussi la collaboration, en fait partager les réponses, qui est généralement à l'école considérée comme de la tricherie, mais dans le cadre d'une entreprise, c'est de la collaboration, c'est tout simplement nécessaire pour qu'une entreprise se développe. Donc à la Holberton School, il n'y a pas de tricherie, c'est de la collaboration, et d'ailleurs c'est
vous autorisez les antisèches.
En fait, il y a pas d'antisèche. Ils ont accès à Internet.
Oui, ils ont accès à ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, Internet.
Exactement. Internet, documentation, toutes les ressources dont ils auront accès quand ils seront aussi en poste en entreprise.
Je crois qu'il y a une autre université où ça fonctionne comme ça, non?
Ouais, c'est une méthodologie en fait. On crée rien. C'est une méthodologie qui existe déjà, qui est pas aussi développée que l'approche que l'approche théorique. Et qui a fait ses preuves et je pense qu'elle se développe de plus en plus dans le monde. Elle a fait ses preuves et en fait comme chacun d'entre nous a des façons de mémoriser des choses différentes, ça peut être en regardant, en lisant, en écrivant, avoir aussi proposé une méthode d'apprentissage alternative, donc non pas théorique mais par la pratique, se développe aussi fortement.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est tout le temps connecté, le savoir, c'est presque has-been. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tout savoir n'importe quand avec un smartphone, un ordi, une tablette.
C'est tout ça à fait. Alors en fait, ce qu'on en fait,
après, le plus compliqué finalement, c'est de bien trouver l'information. Exactement. Et de bien la chercher.
Exactement. On est d'accord. Donc on veut pas transmettre du savoir à nos étudiants. Parce que ce savoir qui sont des langages de programmation, par exemple, vont être obsolètes d'ici 1 ou 2 ans. Par contre, on veut leur apprendre à résoudre des problèmes. Et pour résoudre des problèmes, il faut savoir aller chercher l'information. Donc, on leur enseigne des méthodologies qui sont très adaptées, en fait, au métier de l'ingénierie.
Donc, voilà, Valérie, vous vouliez réagir ? Il faut prendre le micro et parler.
Oui, je vais me permettre de réagir parce qu'on peut avoir... C'est peut-être ma déformation de chercheur qui a eu une formation théorique, mais néanmoins pratique au langage de programmation. Et la recherche, enfin, il y a eu tout ce qui est recherche en termes de théorie des langages de programmation, qui est pour comprendre la science de la programmation. Et mon point de vue, enfin, partagé par des collègues, c'est que si on comprend la science de la programmation, le langage de programmation en lui-même, on saura le maîtriser. Alors, à partir du moment où on arrive à une solution qui est d'aller rechercher par briques de base ces solutions sur Internet, je pense qu'on arrive. Enfin, l'extrême programming est aussi en partie ça, puisqu'on va rechercher des solutions existantes. Mais je pense que comprendre le fond du problème et d'être capable de l'analyser, ça passe aussi par une formation théorique.
D'accord. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Voilà, je ne suis pas ça. Tout à fait d'accord.
Enfin, cela dit, on peut comprendre et ne pas tout savoir aussi. On est d'accord.
Oui, mais pour comprendre, bien sûr, on ne sait jamais. Mais pour comprendre, je pense qu'il faut les bases théoriques.
Un minimum de savoir. Ouais. Très bien. Messieurs, dames, on revient dans un instant. Mmh. On poursuit sur le futur de l'éducation avec nos invités sur BFM Business, l'atelier numérique, depuis San Francisco, depuis l'atelier US, à l'occasion des 10 ans de l'atelier US. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. L'atelier, vous le savez, chaque samedi, 2 heures dédiées aux nouvelles technologies, à l'économie numérique. Un atelier exceptionnel. On pèse nos mots puisque nous sommes ici à San Francisco. On a fait le déplacement exprès pour vous, exprès aussi pour l'atelier qui fête ses 10 ans. Et à cette occasion, on évoque, on va dire, les grands sujets de société liés aux nouvelles technologies. Et avec Lila et nos invités, on parle du futur de l'éducation.
Mais oui, le futur de l'éducation, avec une vision assez originale qui est celle de la Holberton School. Une vision de l'éducation qui passera à la fois par la communauté et la mise en œuvre de projets. Sylvain Kalache, est-ce à dire que votre modèle, quelque part, ce serait vous inspirer des codes de la start-up et vous l'appliquer à l'école?
Tout à fait. Alors, pour ma part, j'ai rejoint SlideShare il y a à peu près 5 ans, qui est l'équivalent de YouTube pour des slides. C'est une start-up qui, à l'époque, avait à peu près 10 personnes. Et par la suite, on s'est fait racheter par LinkedIn. Donc le social network pour les professionnels, et donc j'ai pu voir en fait les besoins en ingénierie depuis la petite start-up de 10 personnes jusqu'à la multinationale de 10 000 employés, et donc en fait on a un besoin en ingénieur qui est énorme ici. On a énormément de mal à recruter, et donc on voyait en fait l'écart qu'il y avait entre la formation que les Américains recevaient des universités américaines, donc des masters ou des bachelors, et le besoin en entreprise. C'est-à-dire qu'ils avaient un enseignement qui était beaucoup trop théorique.
Donc c'était deux mondes qui, on avait l'impression, ne discutaient pas assez pour... voilà, en fait, il y avait un décalage entre ce que les étudiants apprenaient et ce que les entreprises avaient besoin.
Tout à fait. Et donc, le but de la Holberton.
Mais ça, on a l'impression que c'est tout le temps le cas depuis des années.
C'est partout. Voilà, l'enseignement n'a pas évolué depuis des siècles, hein, tout simplement. Et nous, en fait, on veut changer ça, changer la donne, en fait, en reproduisant l'environnement qu'il y a en entreprise au sein de l'école. Donc ça veut dire que les étudiants vont travailler sur des projets qui seront des projets de niveau d'entreprise. Donc ils vont construire des sites internet, le construire, le tester, faire le design, l'envoyer en production sur internet. Ils seront d'abstraintes. Mais aussi il y aura un côté, ce qu'on appelle soft skills.
D'accord. Est-ce que quelque part, de ce que vous dites, c'est un peu au final l'éducation à la demande, adaptée à la demande des entreprises selon leurs besoins.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ?
Ouais, alors l'exemple concret, par exemple, c'est bon, la plupart des entreprises tech de la vallée font des sites internet. C'est ça le boulot. Hein. Donc, ce qu'on va demander à nos étudiants, c'est on va leur dire il faut que vous développiez un site internet où il est possible de poster des images, de communiquer avec d'autres utilisateurs et d'avoir un compte. Et après, c'est à eux de venir avec une idée, de créer le site, de faire le design, mais aussi d'être d'astreinte. Donc, ça veut dire leur téléphone va être connecté à un système et si le site ne fonctionne plus, ils vont être appelés par exemple à 3h du matin la nuit. Mais aussi, ils vont devoir faire le marketing, la communication, le support client. Ils vont devoir aussi pitcher leur idée de site à des investisseurs via notre programme de mentor, qui est peut-être quelque chose dont je peux parler.
Alors, vous vous appuyez pour se représenter sur la communauté, une communauté de mentors spécialistes. Ça va être, vous êtes entouré de qui ?
Alors, comme vous avez dit, le but c'est que les deux mondes communiquent, c'est que le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation communiquent. Et pour faire ça, en fait, on a constitué une équipe de mentors. Ils sont une centaine. Qui sont des gens qui travaillent dans le monde de l'entreprise. On a des mentors de Uber, de Facebook, de LinkedIn, comme de petites startups qui décollent. Et ça peut être des project managers, des ingénieurs, des journalistes, des investisseurs, etc., qui sont volontaires pour en fait échanger avec les étudiants, mais aussi pour échanger avec nous, pour être certain que notre curriculum soit toujours à jour. Parce que le monde, les besoins de l'entreprise, les outils utilisés dans l'entreprise évoluent constamment. Et pour nous, c'est nécessaire d'adapter tous les mois en fait notre curriculum.
D'accord. Est-ce que ce modèle, est-ce que quelque part, il n'est pas propre au milieu du code de la programmation informatique ? Est-ce qu'il pourrait être adaptable à d'autres professions ?
Oui, alors ça dépend des secteurs, mais par exemple la santé ou le droit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus statique, quoique la santé. Évolue très rapidement ces dernières années, mais c'est tout à fait un... Par exemple, dans l'économie, les outils changent, qui est-ce qui va réussir à s'occuper des transactions le plus rapidement possible, donc les outils évoluent constamment, et en fait, comme je vous ai dit, on ne veut pas apprendre des outils ou des langages de programmation, mais des méthodes qui vont en fait servir à cet étudiant tout au long de leur carrière. Une méthodologie de comment résoudre un problème, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans n'importe quel secteur.
Alors, en préparant l'émission, vous parliez de la médecine, notamment avec l'apport, avec l'avènement de la réalité augmentée, qui aiderait votre approche de peer learning et méthodologie de projet. Si je me souviens
dans le cas d'écoles connectées.
Oui,
alors le but, c'est pas de faire une école, mais c'est d'en faire une centaine. Ce qui est génial avec notre modèle, c'est que, en fait, la qualité de notre enseignement n'est pas dépendante de la qualité des professeurs. Ce qui est le cas pour toutes les écoles, toutes les autres écoles classiques, où si vous avez un bon prof, vous avez une bonne éducation, un mauvais prof, vous avez une mauvaise éducation. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir ouvrir plein d'écoles avec une qualité d'éducation similaire. Et c'est vrai que via les nouvelles technologies, on peut mettre en collaboration des étudiants, par exemple, de Paris avec des étudiants de San Francisco. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, en entreprise, une réalité où moi, par exemple, quand j'étais à SlideShare, je travaillais avec des équipes en Inde. Donc, c'est encore une fois préparer les étudiants à leur premier travail.
Est-ce que quelque part cette préparation, cette méthodologie de projet, pousser le projet en avant, c'est pas une réponse à l'évolution vers un travail qui tend de plus en plus vers des missions, vers le freelance, le travail freelance ? Est-ce que c'est pas la réponse, la suite logique à cette évolution du travail ?
C'est potentiellement, on forme pas des entrepreneurs, mais je compare un peu la freelance à un entrepreneur. C'est vrai que c'est très adapté à un métier d'entrepreneur parce qu'on va leur enseigner des méthodes et tout un set de compétences, et pas seulement technique, mais aussi sociale, comme la communication, marketing, etc. Donc c'est vrai que c'est... en fait, ces étudiants auront appris à apprendre par eux-mêmes et donc ils pourront très facilement se métamorphoser pour prendre un autre poste ou faire une mission de type marketing ou de type technique. Donc oui, tout à fait.
Merci beaucoup Sylvain Kalash.
Merci.
Et rappelons que vous êtes l'un des cofondateurs de la Holberton School. Alors vous restez avec nous sur BFM Business. On revient dans un instant pour notre deuxième partie de cet atelier numérique. Et depuis San Francisco, on va s'intéresser quand même à un gros morceau. On va parler du futur du transport avec des invités prestigieux. On aura Renault, Tesla, mais aussi Berkeley avec nous. Ça sera dans quelques instants. À tout de suite.